Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. On peut l'aimer très noir comme un bon café, avec une pointe de sel ou de piment pour la fantaisie. On peut le préférer garni de noisettes ou d'amandes pour le croquant ou le faire couler onctueux et fumant pour le déguster à la tasse. Le chocolat est pour beaucoup d'entre nous bien plus qu'une simple gourmandise. Chaque année, les Français consomment plus de 300 000 kilos de chocolat, soit 7 kilos par personne, oui. En Suisse, en 2023, la presse se désolait de voir, pour la première fois depuis 40 ans, la consommation de chocolat tomber en dessous des 10 kilos par personne et par an. Les champions dans un monde qui consomme chaque année 7,2 milliards de tonnes de cacao. Paradoxalement, les pays producteurs sont loin d'être les premiers consommateurs. En Côte d'Ivoire, leader mondial, avec plus de 2 millions de tonnes produites chaque année, la consommation s'élève à environ 500 grammes par personne et par an. Pourtant, ce n'est ni d'Afrique, premier continent exportateur, ni d'Europe, première importateur, qu'est originaire le cacao, mais d'Amérique du Sud et plus exactement, d'Amazonie, avant que l'homme ne le fasse sortir de la forêt pour le domestiquer. Quand ? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui avec notre invitée. Elle est généticienne émérite au laboratoire AGAP. Avec une équipe composée d'archéologues, d'anthropologues, de généticiens et de biochimistes, ils ont relevé des traces d'ADN anciens sur des poteries vieilles de 5000 à 400 ans pour remonter l'histoire de la domestication du cacao. Claire Lanneau, bonjour et bienvenue dans Allume la Science.
Bonjour.
Pas encore domestiquée, mais apprivoisée le temps d'une émission. À mes côtés, comme chaque semaine, Aline Perriot.
Bonjour.
En deuxième partie d'émission, vous découvrirez notre deuxième épisode à l'écotron de Baillarguet. Donc cette semaine, nous visitons la plateforme Microcosme. Je ne suis pas sûre que c'était très français ce que j'ai dit. Enfin, nous recevrons Agnès Pesanti, car le bar des sciences est déjà de retour et le thème de la conférence s'inscrit cette fois dans la semaine du cerveau. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54.
Alors Claire Lanneau, on parle souvent d'animaux domestiques, mais beaucoup moins de plantes domestiques. Qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'une plante domestiquée ?
Bon, il existe des populations sauvages de plantes. Et l'homme a prélevé un certain nombre de plantes dans ces populations sauvages, les a rapportées dans les jardins d'abord, les a sélectionnées, un peu cultivées. Et c'est ça un peu qu'on appelle la domestication des plantes. C'est une des premières étapes. Ensuite, ça a pu aller plus loin. Les variétés ont pu être emportées dans une autre région et ont pu être à nouveau croisées avec d'autres plantes, et d'autres plantes de la même espèce, bien sûr. Et ensuite sélectionner, ça correspond au processus de domestication.
Alors ce processus de domestication, vous êtes intéressé plus précisément à celui du cacao et à sa datation en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Mais à la base, le cacao, ça vient d'Amazonie. Comment est-ce qu'on le sait ça ? Comment on sait que le cacao est originaire d'Amazonie ?
Et c'est en analysant la diversité justement de ces plantes natives, de ces plantes sauvages, on s'est aperçu que la plus grande diversité de l'espèce Theobroma cacao était présente dans une zone d'Amazonie entre Colombie, Équateur, Pérou. Et c'est comme ça qu'on a pu localiser l'origine de cette espèce, en fait.
Alors, pour mener cette étude, vous avez recherché des traces de cacao dans des poteries en céramique ancienne. Donc, on l'a dit dans le lancement, 352 objets exactement, datés entre 5300 ans et 400 ans. Alors, elles venaient d'où, ces poteries, et surtout, comment vous avez obtenu ces vestiges ?
Oui, alors c'était un long travail de collecte, effectivement. On a mené des collaborations avec pas mal d'archéologues et d'anthropologues pour avoir justement accès à tous les échantillons de céramique issus de différentes cultures, en particulier des cultures d'Équateur, de Colombie, mais aussi des cultures d'Amérique centrale. Pour ça, d'une part, on a contacté des musées, comme le musée de Guayaquil en Équateur, où ils ont dans leur réserve beaucoup de poteries magnifiques, d'ailleurs, issues des différentes cultures qui ont existé tout le long de la côte pacifique de l'Équateur, comme les Valdivia, les Machalilla, les Chorrera, etc. Et on a pu avoir accès à les échantillonner dans ces musées directement. On a fait la même chose en Colombie, où on a contacté le musée de Bogota, le musée national de Bogota, et là aussi, on a pu avoir accès à toutes les céramiques, aller sur place, échantillonner, gratter les...
Vous allez nous raconter ça dans deux secondes, on va vous le demander.
Et puis, d'autre part, on a aussi contacté les archéologues qui ont pu, pour certains, nous envoyer directement des échantillons, ou gratter eux-mêmes des résidus de nourriture qui existaient dans les échantillons de céramique qu'ils ont collectés et qui étaient issus directement de fouilles. On a pu analyser également ces résidus de nourriture. Voilà.
Alors, on lit dans l'article qu'une des raisons pour lesquelles l'histoire du cacao est quand même assez bien connue, c'est l'importance particulière de l'arbre. Il tient quelle place en Amérique du Sud et en Amérique centrale, le cacaoyer ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ?
Alors donc, la culture du cacao est importante, et en particulier de cacao fin, est importante pour certains pays comme l'Équateur, justement le Venezuela, qui mise justement sur la culture du cacao fin, contrairement aux pays d'Afrique. Et pour l'Équateur, par exemple, c'est un enjeu économique vraiment important, la culture du cacao. Donc, ça dépend des pays, des options. Au Brésil, la culture du cacao a été assez prépondérante il y a pas mal d'années. Puis, malheureusement, il y a une maladie qui s'appelle le balai de sorcière qui a débarqué et qui a ruiné l'économie cacaoyère, quoi. Et maintenant, ils relancent la culture en sélectionnant des variétés qui soient résistantes justement à cette maladie. Une autre grave maladie qui s'appelle la moniliose qui risque d'arriver aussi au Brésil.
Alors, donc, dans ces poteries, vous le précisez, donc vous n'avez pas trouvé de traces archéobotaniques de cacao. Alors, peut-être juste une petite précision, c'est quoi une trace archéobotanique
alors,
de cacao ?
En fait, dans ce travail-là, plus récent, on n'a pas recherché ces traces, mais dans un travail précédent qu'on a mené avec des archéologues du Canada, on avait une collaboration donc, avec cet archéologue qui a pu mettre en évidence des grains d'amidon dans ces résidus de nourriture qui étaient spécifiques du cacao, dont la forme était particulière et spécifique du cacao.
Et ils dataient de combien de temps ces résidus ?
Et dans ce cas-là, on a pu mettre en évidence des traces remontant à 5300 ans.
C'est incroyable. Ouais. Donc là, vous l'avez dit, ces poteries, elles viennent de musées, donc j'imagine qu'on ne va pas les broyer pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Vous avez cherché, vous, des traces un peu biochimiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, déjà ce que vous avez cherché ? Donc vous parlez de théobromine, de théophylline. Qu'est-ce que c'est ? Et puis comment on va les chercher, ces traces-là ?
Voilà. Alors en fait, on a collecté des échantillons qui ont servi à la fois aux analyses biochimiques et aux analyses d'ADN ancien. Donc pour ça, on a gratté à l'intérieur des parois de la céramique un coton-tige imbibé d'un liquide de conservation, tout simplement. On a isolé comme ça une dizaine de coton-tiges qu'on a conservé et analysé quand on est revenu à Montpellier. Et donc, alors, on a fait d'une part des analyses biochimiques, en collaboration en particulier avec un collègue de l'Université de Montpellier, Gilles Valette, qui est responsable de la plateforme biochimique de l'UMR, UBMM. Voilà. Et en collaboration avec un autre collègue américain également.
Et qu'est-ce qu'elles ont donné alors, ces analyses biochimiques ?
Alors, donc, les analyses biochimiques qui étaient d'une part des analyses de théobromine, théophylline, qui sont assez caractéristiques du cacao, mais également de caféine. Et on a trouvé des traces de caféine dans un grand nombre, presque un tiers des échantillons qu'on a analysés contenaient ces traces de ces trois composés qu'on classe dans les méthylxanthines.
Et c'est la signature du cacao, ça ?
Pas complètement. Il faut d'autres vérifications par l'ADN ancien, puisque ces composés existent aussi dans quelques autres plantes présentes en Amérique du Sud, en particulier la caféine. Donc, c'était bien de savoir qu'elles existaient, parce que chez le cacao, elles sont bien présentes. Bon, c'était en quelque sorte un début de confirmation qu'on a confirmé ensuite par l'analyse des ADN anciens. Et là, on a identifié des ADN très spécifiques du cacao.
Alors justement, ces méthylxanthines, vous expliquez dans l'article que leur analyse elle est un peu complexe parce qu'elles peuvent aussi être issues de contaminations dans les musées, par exemple. Comment est-ce que vous avez fait pour savoir si elles venaient vraiment du cacao ?
Voilà, donc on a en fait analysé les distributions des taux de méthylxanthine dans tous les échantillons. Et par ces distributions, on a pu mettre en évidence une portion de teneur en méthylxanthine qui pouvait être assimilée à de la contamination, parce que très présente dans un peu tous les échantillons. Et certaines valeurs étaient carrément au-dessus, donc on a pris un seuil bien au-dessus, trois fois en fait le seuil qu'on a observé pour une contamination éventuelle, hein, ces taux de méthylxanthine assez bas. On a pris un seuil trois fois plus élevé afin d'être sûr que ces taux de méthylxanthine correspondaient vraiment à quelque chose et à la présence de cacao.
Alors, vous nous en avez parlé, vous avez également procédé à de l'analyse d'ADN ancien.
Oui,
alors, on a beaucoup parlé d'ADN environnemental dans cette émission, mais jamais d'ADN ancien. Alors... Comment, alors on se doute de ce que c'est, mais oui. Comment on l'analyse ? C'est différent de faire de l'analyse d'ADN ancien et de l'analyse d'ADN normal ?
Oui, en fait, c'est différent parce que ces ADN anciens, ils sont très dégradés. Et quand on fait des étapes de PCR qui correspondent à des amplifications de fragments d'ADN, amplifications dont on a besoin pour les analyser ensuite, on a des risques très élevés de contamination, l'ADN moderne s'amplifiant de façon préférentielle par rapport à ces ADN anciens. Donc on doit prendre beaucoup de précautions et en particulier dans les premières phases des expérimentations, on doit manipuler en salle blanche, complètement stérile. Et pour ça, on est allé au muséum, dans les laboratoires du Muséum d'Histoire Naturelle, qui sont localisés dans le Musée de l'Homme, au Trocadéro, pour faire ces premières manips d'extraction d'ADN ancien et construction des banques. Ensuite, on a continué à Montpellier dans nos laboratoires, parce que là, on risquait plus de contaminer les échantillons.
Et voilà. combien de temps un ADN reste exploitable, en fait ?
Apparemment, très longtemps, puisque les plus anciens ADN anciens ont été mis en évidence à partir d'os de chevaux qui datent de 700 000 ans par en particulier un paléogénéticien français qui s'appelle Ludovic Orlando, associé à un de ses collègues suédois.
Et, 700 000 ans.
Oui, 700 000 ans, c'est la trace la plus ancienne d'ADN ancien qui est connue.
Impressionnant.
Alors, si on revient un peu sur la génétique du cacao lui-même, en fait, il existe 11 groupes génétiques de cacaoyers. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer si un cacaoyer appartient à tel ou tel groupe génétique ? Qu'est-ce qui les différencie, ces arbres ?
Alors, donc, on fait des analyses génétiques à partir de marqueurs et en se basant sur les différences ou les similarités qu'il y a entre les groupes, on établit une espèce de distance génétique, comme une distance de géographique, et on construit des arbres phylogénétiques. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à différencier les groupes qui sont plus ou moins éloignés les uns des autres et qu'on arrive à identifier 10 ou 11 groupes puisque récemment, on a pu identifier un nouveau groupe génétique, un 11e groupe situé dans le sud de la Colombie à partir d'un matériel nouveau auquel on a pu avoir accès.
Je vous ai même pas demandé du coup, mais qu'est-ce que vous avez trouvé avec votre analyse d'ADN ancien ? Vous avez trouvé des traces de cacao ou pas ?
Oui, bien sûr, on a trouvé des traces d'ADN ancien de cacao dans énormément de céramique, pas loin de 30%, entre 20 et 30%. Quoi.
Ah, donc c'était une consommation importante.
C'était une consommation importante qui montrait qu'en Amérique du Sud, on ne savait rien trop sur la consommation de cacao en Amérique du Sud dans les temps précolombiens, mis à part l'évidence qu'on avait pu mettre en 2018 en Amazonie équatorienne, dans le sud de l'Amazonie équatorienne, on avait mis en évidence des traces de cacao dans quelques céramiques. Mais en ce qui concernait le reste de l'Amérique du Sud, on ne savait trop rien sur l'utilisation du cacao. Et là, on a eu vraiment une grosse surprise de voir que le cacao était très, très, très consommé et répandu dans toutes les cultures qui se sont échelonnées tout le long de la côte pacifique de l'Équateur. Et ça, dès 5000 ans, 5300 ans. Donc 1500 ans avant la domestication connue du cacao en Amérique centrale.
D'accord, donc on remonte encore. Voilà. Alors Aline l'a dit, il y a différents groupes génétiques, mais vous citez aussi différentes variétés. Alors vous citez des variétés, la nationale, la criollo, vous me reprenez si je ne prononce pas bien, Amelonado, Marañón, Contamana, Iquitos, ces variétés,
voilà.
Allez-y.
Donc, en fait, les derniers que vous avez cités à la fin, ce sont les noms des groupes génétiques.
D'accord, j'ai mélangé tout, je m'en doutais.
Les trois variétés les plus anciennes qui étaient connues, c'est le criollo, le national et puis l'amelonado, effectivement. Chacune d'entre elles issue de trois régions complètement différentes. Le national est issu d'Équateur. Bon, le criollo, on savait qu'il était, il avait été domestiqué en Amérique centrale, mais ce n'est pas le seul. Justement, ça a été un des résultats de cette analyse. Il y avait aussi d'autres variétés présentes. Et puis l'amelonado, plutôt originaire du Brésil. Voilà.
Et comment vous retracez tout ça? Comment vous savez qui est originaire d'où? Qui est le plus ancien?
Alors, pour le national, en fait, on a fait tout un travail sur l'origine de ce national, en fait, et on a pu le rattacher à justement des populations sauvages qui étaient situées dans le sud de l'Amazonie équatorienne. Sachant que les variétés nationales correspondent à des hybrides, en fait, entre plusieurs choses, entre ces populations du sud de l'Amazonie équatorienne, mais également... Ils ont été hybridés avec de l'amelonado et du criollo.
Vous arrivez à refaire des espèces d'arbres généalogiques, en fait, c'est ça?
Un peu, voilà, tout à fait. Et un des résultats justement intéressants qu'on a eu dans cette étude, c'est de voir que justement tout le long de la côte pacifique, on a retrouvé des cacaoyers qui étaient hybrides, justement, et pas issus d'une seule origine géographique, mais des hybrides. Ce qui montrait qu'il y avait probablement beaucoup d'interactions entre ces peuples de la côte pacifique et différentes régions d'Amazonie. Et le fait d'avoir tous ces arbres au même endroit créait un brassage génétique qui a ensuite probablement favorisé leur adaptation à tous ces nouveaux milieux, puisque ces plantes sont originaires d'Amazonie et pas de la côte pacifique. Voilà.
Alors, vous avez parlé d'hybrides et de populations sauvages, en fait, dans ces variétés-là. Est-ce que la présence de ces nouvelles variétés, ça implique forcément une sélection humaine, ou est-ce qu'il peut y avoir des sélections sauvages naturelles et aléatoires dans la nature, ou forcément c'est humain?
Il y a bien sûr une sélection naturelle due à l'environnement. C'est les plantes les plus fortes qui résistent le plus à tous les aléas climatiques qui s'adaptent à l'environnement. Donc il y a une sélection naturelle, mais ensuite le fait que ces plantes soient présentes sur la côte pacifique, ça implique des migrations humaines qui ont emporté avec eux ces plantes et les ont cultivées sur la côte pacifique. Donc il y a forcément une action humaine importante, et quand on voit qu'il y a plusieurs origines génétiques qui sont présentes, ça reflète justement des tas d'échanges probablement liés au commerce, et à des réseaux d'influence commerciaux et politiques au niveau de ces populations.
Alors donc là, on parle de 5000 ans avant nos jours, ça nous semble évidemment très éloigné et complètement magique de réussir à remonter jusque-là, mais si on doit le mettre à l'échelle de l'agriculture, est-ce qu'on sait par exemple des plantes comme le maïs ou le maïs pour rester dans la région, quand est-ce qu'il a été domestiqué?
Eh bien le maïs a été domestiqué depuis 9000 ans à peu près.
D'accord.
Voilà. Et le blé, dans le cas du blé, c'est à peu près semblable, c'est 9 à 10 000 ans aussi.
Et on a eu donc le même genre d'études, des approches archéogénomiques à chaque fois, ouais.
Voilà, tout à fait, sur le maïs, on a eu ce genre d'approche, oui, tout à fait.
Alors, vous dites aussi dans votre article que les agriculteurs, ils sont actuellement confrontés à des nombreuses menaces qui pèsent sur le cacao, et que peut-être ces travaux-là pourraient aider à y faire face. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles menaces, justement, pèsent sur le cacao aujourd'hui?
Oui. Alors, les menaces principales, c'est d'une part la sécheresse, liée au changement climatique, bien sûr. Et puis, les maladies. Le cacaoyer est vraiment sensible à beaucoup de maladies. Alors, en quoi ce travail peut nous aider, c'est à mieux comprendre d'où viennent les ressources génétiques actuelles. Parce que les ressources génétiques actuelles, elles sont le reflet de toute l'histoire passée. Et donc, c'est intéressant de bien connaître cette histoire passée pour mieux maîtriser les ressources génétiques actuelles, mieux les connaître et les exploiter.
Merci beaucoup, c'était passionnant.
Et, merci à vous.
Vous avez encore d'autres études en cours sur le même sujet ou...
Pour l'instant, c'est pas bien calé, mais
affaire à suivre,
il y aurait beaucoup d'autres choses intéressantes à faire, en particulier sur tous les cacaoyers anciens qui pourraient être présents dans toutes les îles Caraïbes en particulier. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à faire encore, oui. Il faut avoir les moyens et les projets.
On espère que vous viendrez nous en parler si ça a lieu. Alors, merci beaucoup. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Aline, c'est toi qui nous emmène à Écotron cette semaine.
Oui, donc on retourne à Écotron, mais on change d'échelle cette semaine avec Sébastien Devidal, qui est ingénieur d'études en charge de la plateforme Microcosme, donc de l'Écotron, et qui nous présente ses 13 chambres climatiques identiques et indépendantes de 2 mètres cubes chacune, qui peuvent accueillir bien sûr des plantes, mais aussi du sol et même pourquoi pas des papillons, toujours pour étudier les effets du changement climatique.
Donc en fait, la plateforme Microcosme, elle est composée d'enceintes climatiques, 13 au total. On est sur la plateforme expérimentale qui est la plus artificialisée de l'Écotron. Mais malgré tout, on essaye, du coup, dans la finalité de l'Écotron, c'est de pouvoir essayer de mimer le mieux possible ce qui se passe en conditions naturelles.
Alors, est-ce qu'on peut regarder ou décrire de plus près une de ces chambres de culture? C'est un bloc de quoi? De 2 mètres de haut sur 1,50 m de large avec une porte. On peut l'ouvrir pour regarder comment c'est?
Alors, en gros, il faut voir ça, c'est un peu comme des grands frigos, mais qui permettent aussi de faire du chaud. Donc, c'est vraiment une chambre climatique dans laquelle on régule la température, l'humidité, le rayonnement, les concentrations de CO2. Et puis après, qu'est-ce qu'on met dedans? Ça va dépendre en fait de ce que veulent étudier les équipes de recherche qui viennent utiliser cette plateforme. Donc, ça peut être des plantes, du sol, on a eu travaillé avec certains insectes aussi, ou certains de la macrofaune, des papillons, des chenilles, des criquets, des drosophiles aussi, des petites mouches.
Quel type de paramètres vous allez pouvoir contrôler dans cette chambre de culture?
Un peu tous les paramètres du climat, c'est-à-dire la température, l'humidité, un petit peu la vitesse du vent, mais c'est quand même assez limité. On peut contrôler aussi les concentrations de CO2, on peut enrichir notre atmosphère en CO2. Et l'avantage qu'on a aussi ici à l'Écotron, c'est que du coup, on a des collègues qui sont spécialisés dans tout ce qui est mesure de flux. Donc ce qu'on appelle les flux, c'est ce qui est échangé entre les différents compartiments de la biosphère, donc à la fois la biosphère, l'atmosphère et le sol. Donc on peut savoir un petit peu comment... le carbone est absorbé, qu'est-ce que l'écosystème va réémettre comme gaz. Et donc on a une analyse assez fine ici dans ces chambres de culture pour pouvoir analyser tout ça et faire ces bilans de flux de gaz en fait au niveau de l'écosystème.
Et c'est des pots que vous mettez directement dedans ou vous avez une autre infrastructure?
Eh alors du coup là aussi ça dépend, on essaie d'être le plus modulable possible. Tout va dépendre du nombre d'échantillons que les équipes de recherche ont besoin de conditionner, donc on peut avoir des petits pots, des gros pots. Dernièrement on avait par exemple des blocs qui faisaient à peu près une trentaine de kilos, donc il y avait un seul bloc par chambre, et c'était des blocs de sol qui avaient été prélevés au pied d'un glacier, du coup on a travaillé avec une équipe italienne. Donc là c'est le genre de bloc, les plus gros blocs réellement qu'on peut avoir dans ce genre d'enceinte de culture, mais on peut travailler sur des plus petits volumes et puis avoir du plus grand nombre d'échantillons. Ça dépend vraiment de ce que veulent les chercheurs, du coup on s'adapte.
Il peut y avoir des blocs de sol dans lesquels il n'y a pas de plantes alors?
Pas forcément des blocs, on travaille sur des plus petits volumes. Là on est plus sur des flasques en verre dans lesquels on a quelques centaines, 200 grammes de sol. Et là c'est vraiment pour des manips assez spécifiques où les équipes de recherche travaillent vraiment sur la respiration du sol et donc ce que le sol émet en CO2. Et donc tout ce qui est activité microbienne. Donc là il y a vraiment un intérêt à travailler sur ces chambres de culture parce qu'on travaille sur vraiment des petits volumes et un grand nombre d'échantillons. On peut conditionner presque 300, 400 échantillons par chambre. Le fonctionnement de la plateforme Microcosme est un peu différent des deux autres plateformes. Ici, on peut avoir plusieurs équipes de recherche qui viennent utiliser on peut avoir plusieurs expériences qui tournent en même temps. Généralement, les équipes de recherche ont quand même besoin de faire des réplicas, donc on a généralement 2, 3, voire 4 chambres utilisées par expérience. Mais elles sont vraiment toutes indépendantes, donc on peut vraiment avoir des conditions vraiment très différentes d'une chambre à l'autre, et du coup accueillir plusieurs équipes de recherche en même temps. On a des projets qui sont plus courts, mais du coup on a un turnover très très rapide, des expérimentations qui vont durer moins longtemps, mais du coup on a la chance de pouvoir avoir plusieurs équipes qui viennent intervenir en même temps.
Elles durent combien de temps en moyenne, les expérimentations dans une chambre de culture ?
Là, généralement, on a des projets qui peuvent, qui vont durer quelques semaines, voire quelques mois. Et après, on a deux façons de fonctionner. On est soit on fait juste de la prestation, et donc pour le coup, du coup, c'est des projets de recherche qui vont être assez vite ficelés, en fait. Soit on a d'autres projets de recherche sur lesquels on est plus sur de la collaboration, où là, il va y avoir énormément de tests réalisés. Et là, on peut avoir des expérimentations qui vont durer un, voire deux ans. C'est des choses qui vont se mettre en place petit à petit, avec pas mal de choses à tester de notre côté, des choses à développer, donc voilà, c'est plus du tout la même approche, on n'est plus vraiment sur de la prestation, mais vraiment de la collaboration. Prochainement, on va travailler sur des navets et des pucerons, donc là, c'est un projet de recherche avec une équipe qui est juste à côté. Ils veulent en fait, du coup, étudier un petit peu l'impact des pucerons, qui est vecteur de certaines maladies, sur des plantes qui vont pousser dans des températures un peu plus élevées et à des concentrations de CO2 plus élevées, donc un climat futur.
En fait, dans cette pièce, on peut passer donc, en gros, d'un plateau alpin ici, à des rizières du sud-est ici, à vous pouvez reproduire tous les climats possibles alors.
Effectivement, ici, on peut faire du froid, on peut faire du chaud. Donc, on a eu effectivement des conditions très froides. Alors bon, c'est limité, on ne peut pas faire du gel encore parce qu'on a l'instrumentation et qu'il ne le permet pas. Mais on peut descendre à des 5 degrés et on a aussi eu des manips sur par exemple, du palmier à huile. Donc, du coup, là, on montait à des 30, 40 degrés. Effectivement, là, c'est plus facile de simuler et puis de contrôler un climat dans des conditions très très, enfin de laboratoire. On est moins dépendant de la météo extérieure.
La semaine prochaine, on poursuit notre exploration des cotrons et cette fois-ci, on s'intéressera aux flux. Et j'accueille maintenant Agnès Pesanti de la Culture Scientifique. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Et donc cette semaine, on parle du prochain rendez-vous du Bar des Sciences sur le thème du microbiote. Alors un microbiote sain pour un esprit sain, et tout ça, ça s'inscrit dans la semaine du cerveau, c'est bien ça ?
Tout à fait. La semaine du cerveau, comme chaque année, un grand événement annuel. Et cette semaine du cerveau, nous en sommes partenaires avec le Bar des Sciences, puisque donc le Bar des Sciences dont je parlerai immédiatement, s'inscrit dans le cadre de cet événement qui a lieu du... Alors on dit semaine du cerveau, mais c'est du 1er au 29 mars.
Ah oui, c'est une grande
2024.
Semaine.
Ben, en fait, la semaine a grandi. Voilà,
il y a beaucoup de choses à dire.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour les auditeurs que ça intéresse, ils peuvent retrouver le programme sur www.semaineducerveau.fr.
Super, et on le mettra en lien aussi sur la page de l'émission. Donc. Alors, pourquoi le thème du microbiote ? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette approche-là ?
Alors, on avait déjà parlé du microbiote et du lien microbiote-cerveau, mais il est... Puisqu'en fait, il est désormais communément admis que ce microbiote intestinal communique avec le système nerveux central par des voies à la fois neuronales, endocriniennes et immunitaires. Et puis, de nombreux microbiologistes, gastro-entérologues, neurobiologistes s'accordent vraiment aujourd'hui à qualifier l'intestin, on le sait, et son microbiote de second cerveau. Ce que l'on sait un peu moins, en revanche, c'est que depuis quelques années, les études se portent et la préoccupation des chercheurs qui se penchent sur l'axe intestin-cerveau prouve qu'il y a énormément d'interactions entre le microbiote et le cerveau, mais surtout qu'il pourrait jouer un rôle dans la physiopathologie de nombreux troubles. Et ces études révèlent le lien étroit entre la composition du microbiote intestinal et l'anxiété, ainsi que de nombreux troubles dépressifs. Donc on sort de l'axe purement pathologie classique pour se focaliser sur ce Bar des Sciences, sur des pathologies plutôt en lien avec le système nerveux et donc les états dépressifs, les sautes d'humeur, etc., etc.
Ok, passionnant. Alors, comme d'habitude, j'imagine que vous aurez des experts autour de la table, pardon. Qui seront vos confrères ?
Deux expertes.
Qui seront vos expertes donc ?
Alors, Tasnim Akbarali, voilà, qui est docteur en épidémiologie. Elle est chargée de recherche INSERM, au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations.
Que nous avions reçu ici même il y a 2 ou 3 ans, je crois, maintenant.
D'accord. Alors elle, ses travaux portent sur les mécanismes impliqués dans les relations entre alimentation et neurofonctionnement, en explorant notamment toutes les voies inflammatoires métaboliques liées au microbiote intestinal. Et la seconde experte est Sylvie Claissen. Alors Sylvie Claissen est docteur en sciences, elle est chercheuse en neuropharmacologie à l'Institut de génomie fonctionnelle, donc l'IGH bien sûr, Et ses travaux à elle, ses domaines de spécialité couvrent la neuropharmacologie, les récepteurs de sérotonine et les maladies neurodégénératives.
Alors, ma langue a fourché, j'ai failli dire conférencière. On rappelle en deux mots le principe du bar des sciences, ce ne sont pas des conférences.
Non, c'est un débat que j'appelle participatif et citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les questions du public en présence au bar des sciences qui vont nourrir la soirée et les chercheurs sont invités pour répondre à toutes les questions du public.
Merci beaucoup Agnès.
Merci beaucoup Lucie.
On rappelle, donc, c'est donc jeudi, le jeudi qui vient, jeudi 14, à 20h30 à la brasserie Le Dôme, comme d'habitude.
Comme d'habitude, l'entrée est libre, gratuite, pour arriver un tout petit peu avant pour être sûr d'avoir une table.
Merci beaucoup. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.